C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet ce matin, la situation à Maisonneuve-Rosemont. Si on résume, l'urgence est ouverte, premièrement. Deuxièmement, la gestionnaire controversée a été tassée. Et on a nommé une conciliatrice dans le dossier. Est-ce que c'est le bon plan de match, le bon scénario? Luc?
Oui, pour commencer, tu sais, pour les premiers jours, il y a l'air d'avoir une tension énorme avec les employés. En même temps, j'espère que c'est le directeur, le PDG du CIUS qui a demandé ça. Parce que si c'est pas lui, c'est un pied de nez qu'on lui fait. On voit que Bernard Drainville a dû s'excuser à un gestionnaire dans le réseau de l'éducation parce qu'il a proposé une solution par-dessus sa tête. Ça serait bizarre que Dubé, qui n'arrête pas de vanter l'imputabilité managériale, fasse la même chose. Donc, j'ai l'impression qu'ils se sont entendus. J'espère qu'ils se sont entendus. Mais évidemment, c'est un plaster. Nécessaire, peut-être. Il y a une discussion, il y a une tension, il y a quelque chose à gérer. Maintenant, il y a une solution temporaire plus importante qui est le détournement des ambulances. Pourquoi? Parce que l'hôpital, on le sait, est sous-doté. Là. Par rapport aux autres hôpitaux, pas par rapport à un plan théorique, 17% des lits de la région avec 27% de la population. Il y avait un comparable qui était établi par rapport à l'hôpital juif, qui est un très bon hôpital, puis très gros, puis à peu près de taille semblable, mais quand même, 45 ambulances à Maisonneuve-Rosemont contre 35 à l'hôpital juif, alors que l'hôpital juif a 100 lits de plus. Donc, il y a un déséquilibre. Il faut régler ce déséquilibre-là à long terme, à moyen terme. Il y a d'autres mesures qu'il faut mettre en place. Mais ceci étant dit, une crise de cette ampleur-là n'est pas liée à un seul problème. Le ministre nous dit qu'il y a un tableau de bord dorénavant. Le tableau de bord, c'est supposé gérer des situations comme celle-là. Là. T'es supposé de voir que cet hôpital-là est sous-doté. C'est un tableau de bord puis qui ne sert à rien, puis que t'as un hôpital qui a un tel déficit de ressources par rapport aux autres. Bon, j'espère que le tableau de bord a servi à quelque chose, a servi du moins à identifier le problème. Deuxièmement, l'autogestion des horaires, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé, le PDG a essayé l'autogestion des horaires. La levée des ratios, ça n'a pas fonctionné. C'est ce que ça nous dit, ça, c'est que les solutions qui peuvent fonctionner ailleurs, parce que l'autogestion des horaires, ça a fonctionné à Baie-Saint-Paul, ça a fonctionné à Laval. La levée des ratios, c'est-à-dire on demande aux infirmières d'en faire un peu plus chacune plutôt que de faire du TSO. Ça a fonctionné au CHUM, ça a fonctionné au CUSUM. Donc, si ça fonctionne pas à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est que le déséquilibre est trop grand. Et si le déséquilibre est trop grand, c'est d'abord le déséquilibre qu'il faut gérer.
Merci, Paul. Le déséquilibre, Luc, il s'est matérialisé à travers cette mobilisation des infirmières. Ça fait longtemps qu'on dit que l'urgence de Maisonneuve-Rosemont est surchargée, là. Mais ma compréhension, c'est que cette recommandation ou cette décision de nommer une conciliatrice s'est faite après recommandation du PDG, Luc, de l'établissement, c'est-à-dire du CIUS, alors ce qui est une bonne chose. La ligne rouge a été franchie depuis trop longtemps. Les infirmières et les infirmiers, puis je leur dis bravo parce qu'il y a une valeur de symbole. Hein. C'est très symbolique le fait qu'elles ont décidé de menacer de démissionner si rien ne changeait. C'est de dire, écoutez, le système est arrivé au bout de ce qu'il pouvait procurer comme service et puis là, ça ne fonctionne plus. Il y a une infirmière hier qui nous écrivait à l'émission, 33 ans d'expérience dans le réseau, a dit, plusieurs nous le disent, la solution passe par des quarts de travail de 12 heures, comme on le fait dans les hôpitaux anglophones. Croyez-le ou non, il y a des infirmiers et infirmières, un autre témoignage, Hôpital Général de Montréal, plus de 30 ans d'expérience, jamais de TSO durant ces plus de 30 ans d'expérience. Aucun travail supplémentaire, aucun quart de travail en TSO en plus de 30 ans d'expérience. Comment se fait-il que c'est possible de le faire dans ces hôpitaux anglophones et pas dans les hôpitaux francophones? Je pense qu'il y a un début de réponse dans les syndicats. Et les syndicats, jusqu'à maintenant, mettent énormément de pression sur les PDG d'établissement, sur le ministre. Mais à un moment donné, ils vont devoir répondre de leurs actes. Parce que, en fait, tu l'as dit, tu as référé à Laval. Laval a pris la décision l'automne dernier de mettre fin au TSO. Ça fait que le TSO va devenir exceptionnel. On change complètement la façon d'organiser le travail à l'intérieur des établissements qui relèvent du CIUS de Laval. Le syndicat dit, intéressant, mais on verra. T'sais. Alors, à un moment donné, tu dis, attends une minute, là. C'est parce qu'il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Et le 12 heures de travail, ça permettrait, par exemple, je vous donne un exemple concret. Là, tu fais des chiffres de 8 heures à 20 heures ou encore de 20 heures à 8 heures. Tu peux faire de 6 heures à 18 heures. Le personnel entre, ils font 3 jours de travail, 3 jours de repos. Il y a toutes sortes de possibilités, là. Alors, mais ce n'est plus acceptable qu'on se retrouve dans pareille situation aujourd'hui en 2023. Puis il y en a des solutions. Le problème, c'est qu'il manque de volonté syndicale en particulier d'y arriver. Je sais que je vais choquer bien des représentants syndicaux ce matin, mais à un moment donné, faut appeler un chat. Le TSO, c'est le travail forcé. C'est du travail forcé.
Moi, Nathalie, je suis à moitié d'accord avec toi. Je suis d'accord sur la responsabilité du syndicat, mais je la place à un autre endroit. Sur 12 heures, oui, c'est une solution, mais qui vient aussi avec son lot de problèmes, parce que c'est un 12 heures qui est modifié dans le temps. Là, tu fais pas toujours les mêmes 12 heures, sinon c'est tout le temps les mêmes qui font la nuit et la fin de semaine.
Effectivement.
Ça veut dire que si tu planifies, par exemple, une vie de famille, bon, mais il y a des moments où tu peux pas. Il y en a qui acceptent ça, qui aiment ça, puis que ça fonctionne bien pour eux, puis ça leur donne 4 jours de liberté après. Ça fonctionne très bien pour certaines personnes, d'autres non. Les employés les plus anciennes ne veulent rien savoir parce que elles sont dorénavant dans des postes qu'elles ont acquis à force de travail et d'ancienneté, puis elles veulent pas faire une concession de dire, ben moi, je me remets dans un système de rotation avec 12 heures, je veux pas. Donc, on peut comprendre que c'est dur de changer un système. Là où je vois la responsabilité syndicale, moi, c'est dans cette fermeture complète. Donnez-nous plus d'argent et engagez plus de monde. Point final, les infirmières sont épuisées, donnez-nous plus d'argent et engagez plus de monde. Premièrement, le TSO, c'est moins de 2% de toutes les heures travaillées dans la région de Montréal. C'est sûr que c'est plus à l'urgence. Mais c'est moins de 2%. Dans la plupart des régions du Québec, c'est moins de 1%. Alors, oui, c'est grave. Oui, personne ne voudrait être prêt avec ça, mais on relativise. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement. Ah non, attends un instant. Attends, je vais réagir là-dessus parce que ce qui se passe à Maisonneuve-Rosemont, ce n'est pas un cas isolé, comme comme le dirait notre ami Jean Perron, c'est la pointe de la asperges, là, parce que c'est le même partout dans plusieurs...
Non, pas partout.
Tous les établissements. Luc, le TSO, écoute, il y a eu 25 000 griefs déposés depuis des années par rapport au TSO de la partie syndicale. Le TSO a été érigé en système dans de trop nombreux établissements du domaine de la santé au Québec. Et le TSO, pour la petite histoire, là, c'est apparu à la fin des années 90, lorsque le gouvernement, je pense que c'est Lucien Bouchard qui était premier ministre, a mis à la retraite les infirmières qui avaient 50 ans.
Mais je vais donner un chiffre. J'ai parlé avec le PDG ce matin. Là. Ça donne... Pour le mois de décembre, à l'urgence, 87 quarts de travail en temps supplémentaire obligatoire. Mais attention, le TSO représente 30% du temps supplémentaire. Ça veut dire que tu as 70% du temps supplémentaire qui est accepté par le personnel, mais ça fait beaucoup de temps supplémentaire.
C'est un hôpital en crise, on l'a dit dès le départ. Là. C'est un hôpital en crise, mais de là à dire que toute la province, oui, il y a un problème. Mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'on dise toute solution de gestion ne compte pas, toute tentative du gouvernement qui a été faite à ce jour pour engager plus d'infirmières, ça ne compte pas, que la seule chose qu'il faut faire, c'est payer plus les infirmières puis en engager plus. Je veux bien, moi, si c'est ça la solution, mais on va dire, après ça, là, j'aimerais ça asseoir la présence de la FIQ puis demander, oui, comment on fait ça? Parce que le gouvernement a quand même fait, les primes au temps permanent. 2, les primes à l'embauche. 3, les subventions à l'école, aux études. 4, il y a eu tout un accompagnement qui a été fait sur le travail administratif. Il y a toutes sortes de solutions qui ont été mises en place, là, puis qui n'ont pas, à ce jour, livré leurs fruits. Ah, bien, il y a le recrutement international. Donc, tout ça a été mis en œuvre. Fait que, il ne suffit pas de dire ça nous prend plus d'infirmières, puis il faut les payer plus. Il faut aller au-delà de ça.
Ben oui, il faut aller au-delà de ça, Luc, parce que le problème est devenu structurel au fil des années. En fait, là, on vise les syndicats ce matin. Qu'est-ce qui empêcherait le ministre Christian Dubé, demain matin, là, de signer un arrêté ministériel qui dit « J'interdis maintenant le TSO dans les établissements de santé au Québec ». Le temps supplémentaire, ça va, on fait du temps supplémentaire depuis toujours
Mais Nathalie,
dans la façon
dont les horaires
sont organisés.
Il va falloir changer les ratios si tu fais ça.
Oui. Oui, en fait, changer les ratios, oui, mais en même temps, il faut que les gestionnaires, les syndicats, les employés, tout le monde s'implique, tu comprends? Mm-hmm. Là, actuellement, il y a énormément de tensions sur le terrain. J'espère, tout comme toi, que la conciliatrice qui était nommée va trouver des solutions à plus long terme. Il faut aller au-delà de la gestion de cette crise qui est annoncée. Mais moi, je n'en peux plus qu'on parle de ça, là. Les infirmières ne peuvent plus, là, du TSO. À un moment donné, tu dis... Écoute, on va sur la Lune, les hôpitaux anglophones le font constamment, ça revient dans nos conversations. Comment se fait-il que eux, ça fonctionne et que dans les hôpitaux francophones, c'est si compliqué? Avez-vous une réponse à ça?
Oui,
moi, j'aimerais bien avoir une réponse à ça.
Luc,
Bon, premièrement, des grèves pour d'infirmières, il y en a eu ce mois-ci à Londres et à New York. C'est pas juste
je
une situation québécoise.
New York,
non, mais c'est pas juste un problème québécois. Il y a un refus de travail à pied d'œuvre la fin de semaine, la nuit. C'est les gens veulent plus ça. C'est pas juste en se mettant ensemble qu'on va trouver la solution. Moi, je pense qu'il faut des contraintes. Malheureusement, c'est mon outil principal et préféré. Une de ces contraintes là, c'est le contrat social avec les infirmières. Tu reçois une formation de l'État, tu reçois des subventions pour aller à l'école, ben tu n'iras pas en chirurgie esthétique. Tu vas commencer par l'urgence. Ça, c'est la première affaire. Contrat social.
C'est un autre débat.
D'accord. OK.
Oui. Puis, tu voulais finir par en disant.
Contrat social avec les médecins.
OK.
Un contrat social avec les médecins, là, vous avez des cabinets où vous travaillez, etc., en cabinet. Je sais que en temps de crise, là, on parle d'une crise, on est rendu qu'on n'accepte plus les ambulances, là, les médecins accepteraient en clinique de recevoir des employés qui seraient dirigés, au lieu d'être dirigés vers l'urgence, avec un contrat social particulier.
Des patients, je veux dire.
Des patients, oui.
Okay, ouais. On s'arrête là-dessus. Au retour, cette décision de la cour d'appel, là, qui confirme que l'hôpital Sainte-Justine peut débrancher un appareil qui tient un enfant en vie, un enfant qui s'est quasi noyé, qui a 5 ans. Les parents s'opposaient à la mesure et surtout les parents voulaient obtenir la possibilité que l'enfant soit réintubé si on s'apercevait d'un échec.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, la Cour d'appel a tranché hier et confirme la décision du personnel médical de l'hôpital Sainte-Justine de pouvoir enlever un tube qui permet à un enfant de 5 ans d'être maintenu en vie. Un enfant qui est, en fait, qui s'est quasi noyé au mois de juin dernier. Et c'est un enjeu important parce que les parents, eux, souhaitaient, on a parlé avec l'avocat, Maître Martin Ménard, tantôt, de la famille. La famille disait, ben oui, si vous enlevez le tube, parfait. Mais si jamais on voit qu'il est en train de mourir, j'aimerais ça qu'on puisse lui remettre. Et la Cour estime que ce serait nuire à l'enfant parce qu'il y aurait des séquelles physiques importantes. Bref, est-ce que vous trouvez que cette décision est justifiée dans les circonstances, donc d'enlever le tube à cet enfant-là avec la possibilité qu'il meure? Nathalie.
Oui, et je le dis avec un cœur qui saigne parce que c'est une tragédie, hein, une tragédie pour cette famille qui est lourdement éprouvée. Il y a 2 drames dans cette histoire-là. Ben, 3, je dirais même. Le premier, c'est de la noyade de ton enfant de 5 ans dans la piscine familiale. Le deuxième drame, c'est d'espérer qu'un jour un miracle se produise. Un miracle qui n'est jamais arrivé, soit dit en passant. Et le troisième drame, pour moi, c'est de se retrouver à la cour. Par rapport à un dossier qui est immense, c'est tellement humain et ça fait appel à toutes sortes de valeurs. C'est extrêmement déchirant, mais c'est l'hôpital de Sainte-Justine, en fait, qui a décidé de faire appel aux tribunaux parce que ils sont arrivés à la conclusion que cet enfant-là ne pourrait pas survivre, même s'il était débranché, ce serait pas possible pour lui d'avoir une qualité de vie. Alors, le tribunal, il y a 2 tribunaux qui ont été appelés à trancher, tu l'as dit, Paul, et ça fait depuis septembre dernier là que c'est devant les tribunaux. Tout d'abord, la Cour supérieure, par la suite, la Cour d'appel. Et ce que la Cour d'appel a livré comme décision, en fait, elle a dit, premièrement, le juge de première instance n'a pas erré dans sa décision, l'honorable juge Bernard Jolin. Mais ce qu'ils ont aussi affirmé, c'est que le caractère sacré de l'intérêt de l'enfant doit avant tout primer. Et dans toutes circonstances, c'est ce qui doit primer, malgré le fait que les parents ont exprimé une volonté différente. Ils ont dit aussi que le principe de la préservation de la vie à tout prix n'est pas absolu. Ça veut dire que, parce que les parents disent, nous, on veut que notre enfant vive, peu importe les conditions dans lesquelles il serait appelé à faire sa vie. La Cour en a décidé autrement et la Cour s'est pliée. En fait, a reconnu le bien fondé des arguments qui ont été livrés par tous les experts qui se sont exprimés devant le tribunal. Puis ce qui est bien, c'est que ces deux décisions ont été rédigées de façon très délicate. Les parents puissent s'exprimer dans le cadre des démarches devant le tribunal. Et je veux, en terminant, dire, lorsque le juge Bernard Jolin a rédigé son jugement, la première chose qu'il a écrite, c'est ceci. La loi investit les tribunaux de vastes pouvoirs. La présente affaire rappelle que ces pouvoirs s'accompagnent aussi de lourdes responsabilités. Donc, c'est difficile pour les parents, pour le personnel soignant. Il y a 14 intensivistes qui se sont relayés au chevet de cet enfant depuis qu'il est hospitalisé. C'est aussi difficile, bien sûr, pour la famille et pour pour tous les juges qui ont été appelés à trancher une affaire comme celle-là.
Luc.
Ben, il est évident que la douleur des parents est extraordinairement élevée, comme elle serait pour chacun d'entre nous, là, puis qu'il doit y avoir aussi un sentiment de culpabilité. Tu sais, il a passé 20 minutes au fond de l'eau. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je faisais? Pourquoi j'étais pas là? Pourquoi je l'ai pas sauvé? Etc. Ça doit être une torture psychologique. Je sais pas comment on se remet d'une épreuve comme celle-là. Dans ces moments-là, il faut peut-être se retourner vers les grands textes des grandes civilisations, dont l'Evangelium Vitae de 1995, qui a été écrit par le Vatican. Et dans lequel, qui se prononce contre l'obstination déraisonnable, donc contre l'acharnement thérapeutique, bien avant toutes les lois de tous les pays démocratiques, les pays occidentaux, qui ont adopté des lois en 2005, 2010, 2012. L'Evangelium Vitae précède toutes ces lois-là et dit que ce n'est pas dans la volonté de la religion catholique de s'obstiner à garder en vie quelqu'un qui n'a ni conscience et dont la qualité de vie ne peut pas s'améliorer avec des gestes médicaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'en veux à quelqu'un que je respecte pourtant beaucoup, l'avocat Martin Ménard et son bureau. Donc, il a pris la suite de son père, qui a ils ont une réputation irréprochable. Je comprends pas qu'ils aient pris cette cause-là. Pourquoi avoir pris cette cause-là, avoir défendu l'idée qu'on peut garder intubé ou réintubé, parce que c'est ça le truc. L'enfant est intubé. Et là, on dit, on va retirer le tube parce qu'il souffre. Il y a des crises de spasmes, etc., de détresse respiratoire. On va retirer le tube et s'il décède suite au retrait du tube, mais il semblerait que non parce qu'il va respirer suite au retrait du tube selon leur expertise, mais s'il décédait, parce que c'est possible, il faut pas le réintuber parce que la réintubation, premièrement, elle a des conséquences graves sur la santé de l'enfant et sur la souffrance de l'enfant. Et deuxièmement, c'est une vie particulière qui attend cet enfant-là qui ne serait pas capable de... Il n'aurait pas conscience, donc. Pas capable de manger, pas capable de voir, pas capable d'entendre les plaies de pression, l'inflammation des cordes vocales, les pneumonies, etc., les trachéites. Les parents disent, c'est notre responsabilité, on veut ça, mais en même temps, on veut que l'hôpital fasse ça. Et donc, on veut forcer l'hôpital à faire ce qui est maintenant, selon la loi canadienne et québécoise, illégal. On fait pas ça. C'est de l'obstination déraisonnable. Pourquoi M. Martin Ménard a pas le texte de loi de la Cour suprême là et ne laisse aucun doute sur le fait que la personne... Cour suprême, donc, rappelle le principe. Les soins doivent être opportuns, bénéfiques, et non, ils ne peuvent pas être hors proportion. Ces trois éléments-là, me semble, détermine la cause.
Oui, mais je suis convaincu, Luc, que personne souhaitait que cette cause-là se retrouve devant les tribunaux, là. Personne. Sauf que quiconque est devant le tribunal a droit d'être défendu. C'est ça le principe de notre système de justice. Mais je trouve ça intéressant parce que le tribunal, la cour, les trois juges, la cour d'appel ont pris soin de dire qu'il ne s'agit pas ici de se substituer à l'autorité des parents. Le rôle des tribunaux en pareille circonstance, c'est d'être le gardien de la protection des droits fondamentaux de la personne qui ne peut consentir. Alors, dans ce cas-ci, l'enfant ne pouvait pas consentir, de toute évidence, mais les parents... Puis c'est intéressant parce que dans le jugement, on dit que les parents ont été influencés par la nature du traitement, par leur méfiance envers l'équipe traitante, ainsi que par leur croyance religieuse. Mais là, on n'a pas de détails sur leur croyance religieuse parce qu'il y a des histoires qui ont fait aussi la manchette. Rappelez-vous, la jeune maman enceinte, Héloïse Dupuis, en 2016, qui a refusé une transfusion sanguine. Elle a accouché, elle a choisi la mort plutôt que de recevoir une transfusion sanguine et de vivre avec son enfant qu'elle venait de mettre au monde. C'est une histoire horrible. Mais il y a eu d'autres histoires aussi d'enfants faisant partie des témoins de Jéhovah, mineurs, qui, eux, dont les parents s'objectaient à une transfusion sanguine. Le tribunal est allé à l'encontre de la volonté des parents, parce que là, ce qui était en jeu, c'était l'intérêt de l'enfant qui devait primer par-dessus tout. Alors, c'est une décision exceptionnelle, parce que ce genre de cause arrive très, très peu, et j'ai envie de vous dire, heureusement. Mais aujourd'hui... il y a des parents qui sont encore, évidemment, qui ont encore probablement énormément de peine, mais le tribunal a décidé que pour l'intérêt supérieur de l'enfant, il fallait faire ce qu'il... Il faut faire ce qui doit être fait.
J'aimerais apporter une dernière distinction. Vas-y. Moi, je pense qu'il faut faire la distinction entre la compassion et la gestion. Un État doit faire parfois... C'est les individus qui font preuve de compassion. L'État, lui, doit avoir des règles de gestion. Puis dans les règles de gestion, je pense qu'on doit poser cette première question. Est-ce que la personne souffre? Deuxième question, est-ce que la personne est consciente? Troisième question, est-ce que la personne peut guérir? Quatrième question, qui a la charge de cette personne-là? Parce que si elle est dans une chambre d'hôpital pendant des années à la charge de l'État, c'est une question qu'il faut aussi se poser. Je sais qu'on n'aime pas se poser cette question-là. David Levine a posé cette question-là en 1995 dans son livre en disant il y a des médicaments pour lesquels on fait un calcul. On se dit, quelle est l'amélioration des soins qui vont être de la santé qui va être apportée à la personne, puis quel est le coût du médicament? On fait ce calcul-là déjà pour des médicaments. Est-ce qu'on peut le faire pour d'autres types de...
Mais on le fait dans un sens.
Les juges l'ont fait.
Oui, dans ce cas-là, mais aussi au quotidien, là, pour des personnes âgées, est-ce qu'on réanime
oui.
ou pas?
Oui.
Puis on demande aux gens de se prononcer, on demande aux patients de dire dans telle circonstance, arrêt cardiaque, ou bon, voulez-vous qu'on vous réanime?
Mais on donne le choix à la famille.
Oui. Puis là, entre des notions de valeur puis de religion, il y a des gens qui disent, puis même la personne va dire, écoute, moi, j'ai pas envie d'être légume, j'ai pas envie de, puis donnez-moi des soins de confort, puis laissez-moi partir. Puis il y en a d'autres, il y a une forme d'acharnement, je vous dirais aussi. C'est-à-dire que pour toutes sortes de considérations, parfois religieuses, c'est à Dieu de décider, pas à moi. Tu sais,
bon. Voilà.
Merci d'avoir été là tous les deux. On vous retrouve demain.
C'est 23.